sous les doigts d'Horowitz.
I know all the music.
Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Will you stop, please?
Oh, dear.
Bonjour à vous, les admirateurs de Vladimir Horowitz. Et nous voici réunis pour le troisième épisode de notre saga.
Welcome and bienvenue.
La semaine dernière, nous l'avons quitté dans le train Moscou-Berlin. Ses économies cachées dans ses chaussures, la peur au ventre, le chagrin de quitter son pays et les siens, lui griffant le cœur. Et pourtant, il est animé d'un immense espoir de liberté et surtout d'espoir de célébrité jusqu'au bout des doigts. Qu'est-ce qu'a pu ressentir le jeune Vladimir en arrivant à Berlin, la ville la plus extravagante du monde de cette année 1925? Comment passer de la dictature bolchevique à la République de Weimar, des cartes de rationnement à l'opulence, du moins offerte, il n'est vraiment pas riche, mais surtout d'une atmosphère de suspicion constante aux années folles, follement permissives? A-t-il sursauté en traversant une rue? A-t-il été surpris par tout ce bouillonnement?
An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt.
Oui, je sais, l'opéra de 4 sous date de 1928, trois années plus tard. Mais je n'ai pas résisté à l'envie d'écouter Max Rabe dans sa version de l'air de Mäcki. Alors Vladimir, a-t-il été surpris par Berlin? S'est-il senti isolé? Certainement pas. Nabokov et sa famille sont arrivés il y a 3 ans déjà, avec la première vague d'émigrés, les grandes familles russes, les aristocrates qui ont fui la révolution, des diamants cousus dans les doublures des robes. En 1922, les intellectuels expulsés par Lénine ont pris ce qu'on a appelé le bateau des philosophes. Arrivent aussi Marina Tsetaïeva, Nina Berberova, Vassili Kandinsky, les Pasternak, eux, viennent de repartir en Russie. En fait, ils sont 360 000 Russes à Berlin dès 1923. Beaucoup vivent dans le quartier de Charlottenburg, renommé Charlottengrad. Nabokov se retourne étonné quand il entend parler allemand dans la rue. La plupart s'enferment dans leur microcosme dans l'attente de revenir en Russie quand le vent mauvais du soviétisme sera passé. Ils cherchent à reconstituer au cœur même de Berlin leur existence de Saint-Pétersbourg d'avant 1917. On compte une maison des arts, 3 quotidiens en russe, 20 librairies, des écoles et des banques. Les derniers arrivés, les artistes, journalistes et hommes politiques soviétiques, sont parfaitement à l'aise dans la République de Weimar, perméable à l'avant-garde de la révolution artistique en Russie soviétique. Ils se veulent les porte-parole d'une nouvelle culture soviétique à Berlin et viennent collaborer avec des artistes allemands. Essénine et Maïakovski arriveront bientôt avec cette troisième vague propagandiste.
кого там бы выгрыз бюрократизм. Мандатов почтения нет. Любым чертям материально.
Trois ou quatre cafés russes sont très célèbres. S'y succèdent soirées littéraires, conférences, lectures, concerts. Au Léon, par exemple, dans une atmosphère enfumée, se tiennent des réunions politiques houleuses entre ces Russes de tous bords. Le jeune Vladimir Horowitz n'appartient finalement à aucun de ces groupes d'émigrés. Il n'est là que pour devenir un pianiste de dimension européenne. Il partage une même certitude pourtant avec les Russes berlinois. Il rentrera en Russie si ça ne marche pas. Et pour le moment, comme les autres, il est embarqué par le vent de folie berlinois des années 20. Celle des cabarets qui battent leur plein dès le déclin du jour, affichant les artistes les plus audacieux, celle des premiers jazzmen, celle du Charleston endiablé, celle des flots d'alcool et nuées de coke jusqu'au petit matin. Pas sûr que Vladimir soit un fêtard effréné, il a bien trop à faire pour sa carrière. Mais il a bien goûté à ses plaisirs nocturnes, puisqu'il écrit certes bien sagement à sa mère en arrivant, « C'est le crépuscule des dieux de l'Allemagne, où tout s'en va en morceaux. » Toute cette effervescence existe aussi dans l'univers de la musique classique. Il y a une vingtaine de salles de concert, en plus des églises et des opéras à Berlin, donc de quoi faire. Il peut écouter la première de Wozzeck, de Berg, le Diprex de Stravinsky, Cardiac de Hindemith. Les chefs d'orchestre peuvent être Furtwängler, Kleiber, Strauss. Il va écouter ou réécouter les stars du piano, Hoffmann, Paderewski et surtout Rosenthal. Fischer, Backhaus, Friberg ou Petri, cette fois il conclut, je les détestais tous. La manière de jouer à Berlin était rebutante, à la fois pédante, catégorique et ennuyeuse. Il trouve que tous manquent d'ardeur et de sensualité. Finalement, deux pianistes trouvent grâce à ses yeux, Arthur Schnabel et Walter Gieseking. Ce dernier jouait beaucoup de Debussy et Ravel. Il était connu pour son utilisation de la pédale, triple pianissimi, surtout dans Debussy. Il a 31 ans quand Vladimir le voit et en conclut « Pour moi, il était une sorte de sphinx, une énigme, parce qu'il faisait des choses très étranges au piano. Il avait un beau pianissimo, mais il l'appliquait à toutes sortes de musiques, que cela convienne ou pas à la partition. » Mais c'était un très beau musicien, décidément de plus en plus tête à claque, notre Volodia. Schnabel a pour surnom l'homme qui inventa Beethoven. Il est bedonnant, moustachu, fume des cigares, un peu bonhomme certes, mais il en impose par son intransigeance. Schnabel sait la structure et encore la structure. L'insolent interprète qu'est Vladimir hésite à travailler avec un pianiste qui lui ressemble si peu, même si les autorités soviétiques l'ont autorisé à sortir du pays pour étudier avec le maître. Il s'y sent d'autant moins obligé que Schnabel lui a affirmé qu'il n'avait pas besoin de lui. Et Vladimir en est convaincu. Beaucoup de jeunes artistes essayaient d'imiter Schnabel dans tous les concertos de Beethoven. Mais ils jouaient tous comme des petites machines à écrire. Et leur sonorité était à l'avenant. Juste les notes, juste ce qui était écrit, sans aucune liberté d'approche dans le phrasé. Vladimir Horowitz encore. La première fois que j'ai entendu les deux concertos de Brahms, c'était à Berlin. Schnabel jouait celui en si bémol avec Furtwängler et le Philharmonique de Berlin. Ça m'a plongé dans un tel enchantement que j'ai appris l'œuvre en un été. Mais je n'ai jamais joué aucune musique comme Schnabel. C'était un pianiste très intellectuel. Un jour, il m'a demandé « Vous savez quelle est la différence entre mes confrères et moi ?» Quand j'établis un programme, la seconde partie est aussi rasante que la première. D'un côté, Vladimir estime l'école de Vienne décadente. De l'autre, tous ces pianistes à succès que l'on vient d'énumérer ne jouent quasiment que le répertoire allemand. Après quelques semaines à Berlin, les rêves de Vladimir semblent sur le point de se briser contre la réalité. Son amour du piano romantique et passionnément expressif va à l'encontre de la mode berlinoise, des interprétations structurées aussi peu virtuoses que possible. En d'autres termes, Vladimir est un ringard avec sa façon de jouer et son répertoire russe inadapté. Que faire? S'il a des doutes sur les programmes à proposer, en revanche, il lui reste une inébranlable certitude. Il doit affirmer sa personnalité et ne pas imiter les grands. « Je suis ce que tout artiste devrait être, un individualiste. J'ai entendu et vu tous les pianistes et ils ne m'ont influencé que d'une façon négative. » Je les ai critiqués et ils sont restés sans effet sur moi. J'ai gardé ma personnalité comme un morceau d'acier que personne n'a jamais déplacé. Voilà bien un trait inaltérable de la personnalité de Vladimir Horowitz. De toute sa vie, rappelez-vous le caractère buté de l'enfant, il n'a jamais douté ni de son talent, ni tout simplement de lui-même. Merovitch, son agent et nounou de tous les instants, l'encourage en ce sens d'ailleurs. Il pense que cette vogue du piano allemand sérieux va passer et que la virtuosité a des vertus de séduction impossibles à laisser de marbre bien longtemps. Il serine Vladimir avec l'étymologie du mot virtuosité, la possession d'une vertu, d'une qualité insurpassée. Il faut donc, pour séduire les Allemands, les cueillir avant l'entracte. Pour son premier programme, il conseille à Vladimir la sonate de Liszt. Cette version date de 1932. Et si vous vous sentez frustré d'en écouter si peu, promis juré, on se rattrapera tout à l'heure. Le concert est prévu, la date décidée, le 2 janvier 1926, et la salle réservée, il s'agit du Beethoven Hall. Reste le piano.
Vous savez, en 1925, quand je suis arrivé de Russie, je suis allé à Berlin. Il y avait peut-être 8 ou 9 pianos possibles pour la scène. Et je ne savais pas quel piano je devais jouer. Personne ne m'a conseillé. Alors je suis allé chez Bruckner, chez Bechstein, chez Bösendorfer, chez Steinweg, partout, et puis Steinway. Quand j'ai joué sur un Steinway à Berlin, j'ai dit ça, c'est mon piano. Depuis ce moment, je suis le seul artiste de Steinway qui n'ait jamais joué un autre piano, partout, dans n'importe quel pays.
Et puis, il y a autre chose qu'il faut préparer, c'est sa promo. Son père lui avait expliqué que les Allemands, avec qui il était en affaires, se trompaient souvent et l'appelaient Horowitz. Il conseille ainsi, lui-même, à son fils, d'adopter cette orthographe. Voilà comment notre Vladimir Gorowitz, par obéissance à son père, devient Vladimir Horowitz. Autre point de difficulté, son look. Ses cheveux longs, sa grande mèche de côté, cette imitation de Chopin, séduisait peut-être en Russie, mais lui attire la risée des gamins dans les rues de Berlin. Il se coupe les cheveux et les gobine. Habit noir, chemise blanche, visage émacié, il se dessine une silhouette à la pointe sèche. C'est pas mal non plus, mais sous les apparences, l'angoisse souffle sur les braises. La veille du concert à Berlin, Volodia et Merovitch passent une nuit blanche. Et ils avaient raison de s'inquiéter. Volodia se liquéfie de trac avant de rentrer sur scène. Et là, énorme déception. La salle est à moitié vide. Ne sont venus que des immigrés russes et des amis. Apparemment, c'était plutôt mieux, puisque le pianiste avoue lui-même « J'étais très nerveux, et là, je n'ai pas bien joué. » Mais il en est malade, au point que Merovitch l'envoie chez un médecin qui lui injecte on ne sait quel produit pour le calmer, car un deuxième concert est prévu 2 jours après. Cette fois, le public semble presque au rendez-vous.
Thank you.
Sauf que Vladimir casse une corde, comme ça lui arrivait bien souvent en Russie. Catastrophe ? Eh bien non. Le public a attendu pendant cet entr'acte forcé qui a duré. Car l'accordeur, au lieu d'être en coulisses, buvait une bière au café d'en face. Il a fallu le chercher, le convaincre de revenir, réparer la corde, réaccorder le piano, pendant que le public attendait patiemment. Ouf ! Cela veut dire que Vladimir a su tenir son public au creux de sa main. Autre joyeuse nouvelle, la première personne qui rentre dans sa loge à la fin du concert est Schnabel, bien que le dialogue ne soit peut-être pas seulement un échange d'amabilité.
Pour mon deuxième récital à Berlin, Schnabel était dans la salle. J'étais très ami avec Schnabel. Et j'ai joué les valses de Chopin et d'autres bonnes musiques aussi. Et après, il est venu me voir et il m'a dit « c'est bien ». Et j'ai dit « mais maître, vous ne jouez jamais des pièces comme celle-là ». My gosh, je passe tellement de temps à étudier Bach que je n'ai pas le temps pour ça. Il y a tant de choses écrites par lui, je n'ai pas le temps pour cette sorte de musique. Alors je l'ai bien regardé et je lui ai dit, vous savez, maestro, je pense juste le contraire. Premièrement, je joue cette musique, mais j'ai encore du temps pour Bach et je l'aurai toute ma vie. À cette époque, j'avais 26 ou 27 ans.
Thank you. Et dernière réjouissance, un critique est venu l'entendre, et manifestement un bon critique. Dès les premières mesures de la toccata en ut majeur de Bach, cela a été immédiatement sensible. Vladimir Horowitz fait partie des élus, de ces artistes qui tirent de leur piano une sonorité qui n'appartient qu'à eux et constitue ainsi leur bien propre. Ce tout jeune homme interprète la fantaisie sur Don Juan de Liszt et les préludes de Rachmaninov avec une aisance de grand virtuose et une précision, une souplesse qui n'ont d'égal que la variété extraordinairement raffinée de sa palette instrumentale. Il excuse même ses imperfections dans Schumann, mais on ne saurait s'étonner que le sens de la poésie romantique et qu'une certaine sérénité n'aient pu se développer en lui sur le sol ensanglanté de la Russie soviétique. Pour l'heure, l'évidence de son intelligence musicale et l'intensité de sa sensibilité apparaissent d'ores et déjà comme de sûrs garants pour ouvrir à ce très jeune homme la voie du succès. Résultat, dans la foulée de cette critique, Vladimir est invité à jouer le premier concerto de Tchaïkovski avec l'Orchestre symphonique de Berlin sous la direction d'Oscar Fried le 8 janvier 26. Tout va très vite. Une nouvelle critique l'adoube. Il s'est acquitté des passages d'octave avec une bravoure éclatante, ce qui ne l'a pas empêché, dans les passages tendres et lyriques, en général négligés par les spécialistes de tour de force, de faire preuve d'un charme consommé. Le troisième concert, en récital, affiche complet. Nathan Milstein s'en souvient, le grand ami de Volodia, qui a eu plus de mal à obtenir ses papiers, est arrivé la veille du concert en question. Vladimir, entouré, encouragé, peut-il enfin se détendre ? Pas du tout. Il a du pain sur la planche, car Merovitch peut maintenant, grâce à ses succès prometteurs, envisager une tournée en Allemagne.
Emmanuel Franc, sous les doigts d'Horowitz, France Musique.
Mais organiser une tournée en province ne s'avère pas si simple. Vladimir explique. Il y avait un chauvinisme effrayant en Allemagne. Il fallait jouer de la musique allemande et je sentais cela de la part du public. J'essayais de proposer de la musique russe que personne ne jouait, mais on ne l'appréciait pas. Alors, il a fallu changer les programmes. Pour leur remonter le moral, un personnage absolument merveilleux va se joindre à eux. Grégor Piatigorsky, surnommé Grisha. Milstein dit qu'il était le charme incarné, grand, beau, blagueur et infiniment tendre. Ils vont constituer un trio d'amis indéfectibles. Je vous ai beaucoup parlé de Nathan Milstein, alors il n'est pas question de faire l'impasse sur Grégor Piatigorsky. Même s'il est ukrainien et à leur âge, Grisha n'a certainement pas eu leur enfance dorée. Il est arrivé en Allemagne en 21 lors d'un voyage rocambolesque qu'on imagine en cinémascope tant son récit est celui d'un merveilleux conteur. Acteur né, il a d'ailleurs en 1953 interprété pour un film qui n'a apparemment jamais été achevé, la valse de Tchaïkovski avec au piano Ralph Berkowitz. Grisha Piatigorsky est né dans une famille modeste. Son père lui apprend les rudiments de violon et de piano avant de déserter le foyer. Aussi, le gosse, à 8 ans, est contraint de jouer de la musique tzigane dans les cabarets ou dans les cinémas. En 1912, ses parents se retrouvent à Moscou et Grisha reçoit enfin ses premiers vrais cours de violoncelle. Il obtient une bourse au conservatoire. 2 ans après, il a 11 ans. Son père le chasse de la maison. Une vraie histoire de poulbeau, de petit génie traîne la fin. En 17, au moment de la Révolution, il a maintenant 13 ans, il est engagé dans un quatuor à cordes baptisé opportunément le Quatuor Lénine. À 15 ans, il est violoncelliste au théâtre du Bolchoï. Mais alors qu'il a besoin de poursuivre son apprentissage, les autorités russes lui refusent un voyage d'études à l'étranger. Alors, Grisha prend la fuite en 1921. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il a traversé la rivière, le Dniepr, son violoncelle au-dessus de sa tête. Puis il a gagné la Pologne en empruntant des trains, même pas en troisième classe, non, dans des wagons à bestiaux. S'il a pu franchir sans dommage la frontière polonaise sous les tirs des gardes, son violoncelle est endommagé lorsqu'une chanteuse d'opéra qui l'accompagnait se rue sur lui, effrayée par le sifflement des balles. Piatigorsky, alors âgé de 18 ans, parvient enfin en Allemagne, où il étudie pendant une courte période à Berlin et Leipzig avec des professeurs qui n'ont pas l'heure de lui plaire. Pour gagner sa croûte, il se produit à cette époque en trio dans un café russe de Berlin, fréquenté par Emmanuel Feuermann et Wilhelm Furtwängler. Ce dernier l'entend jouer et lui offre la place de premier violoncelle de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Un vrai conte de fées. En tout cas, une belle fin. En écoutant Piatigorsky exécuter Don Quichotte avec le Philharmonique de Berlin, Richard Strauss déclara « j'ai enfin entendu mon Don Quichotte tel que je l'avais imaginé. Le violoncelliste garde ce poste jusqu'à ce que Merovitch lui fasse miroiter une carrière de soliste. On comprend bien que la vie aventureuse de Grisha ne le guide pas vers la sécurité. Banco, il abandonne le Philharmonique de Berlin et se retrouve compère d'Horowitz et de Milstein dès 26. Milstein raconte leur entente avec beaucoup d'affection. Nous devînmes les trois mousquetaires. Ils se rappellent qu'ils suivent ensemble toute l'actualité dans l'espoir qu'une démocratie revienne en Russie. Ils ont leurs blagues contre les musiciens allemands. À la maison, on les appelait les plongeurs des grandes profondeurs. Et puis ils s'épaulent les uns les autres. Grisha rejoint le groupe juste avant le départ de Volodia pour les premiers concerts à Hambourg et fait son possible pour détendre le jeune musicien qui se ronge les ongles. Il s'agit de trois concerts dans une ville importante. Mais la salle n'est pas des plus prestigieuses puisque le pianiste doit se produire dans le salon d'un grand hôtel. Vladimir a raison d'être nerveux. En quelques mois, ses économies ont fondu. Il faut que ça marche. Comme personne ne le connaît, la salle hambourgeoise est vide le premier soir. Merovitch, qui n'en démord pas, compte sur la presse excellente du premier concert pour remplir le deuxième. Le lendemain, donc, tout est calme. Ils vont se balader dans la neige et reviennent transis à l'hôtel où les attend un impresario local dans le hall. La pianiste Hélène Zimmermann a eu un malaise le matin même à la répétition avec le Philharmonique de Hambourg. Vladimir Horowitz voudrait-il la remplacer ? Le concert symphonique commence à l'instant et pour la partie concertante, c'est dans trois quarts d'heure. Merovitch s'exclame « Mais c'est la chance de ta vie !» Quelle course effrénée ! Vladimir n'a rien mangé, il a froid, il est fatigué, pas rasé, pas habillé. D'accord, c'est le concerto de Tchaïkovski qu'il connaît par cœur, mais il ne l'a pas joué depuis 2 semaines. Il arrive au théâtre juste pour la fin de la partie symphonique. Le chef Eugène Pabst sort dans les coulisses pour briefer le pianiste qu'on lui a dégoté il ne sait où ni comment. Quand il voit Vladimir, il n'a aucune confiance en ce jeune freluqué et se contente de lui donner 2 ou 3 indications de tempo comme s'il s'adressait à un étudiant. Le public, une salle de 3000 personnes, est glaciale.
Thank you.
Vladimir plaque les premiers accords et Pabst fait volte-face. Il est médusé. Sans s'en rendre compte, il dirige tout en s'approchant de plus en plus du piano. Et c'est Vladimir qui indique finalement le tempo. L'orchestre est en ébullition. Le pianiste sent peu à peu le public venir à lui, puis le soutenir et enfin faire corps avec lui. Plus tard, Volodia dira qu'il n'a plus jamais retrouvé cette sensation charnelle d'un public qui le porte. Mais ce sera une obsession, gagner le public pour recréer ce lien à chaque concert. Sur les dernières notes, le public explose de joie. Vladimir sourit modestement, Pabst l'enlace, un critique dira « on n'a jamais vu ça depuis Caruso ». Et Vladimir, lui, est plus circonspect. « C'est là que j'ai fait ma grande percée. Qui sait, sans ce concert, peut-être que ma carrière ne serait jamais allée très haut. Jouer bien ne suffit pas toujours, mais je peux dire qu'à Hambourg, ils m'ont aimé immédiatement ». Et le deuxième récital prévu à l'hôtel hambourgeois doit être déplacé dans une vraie salle de concert qui sera comble. Merovitch, dans la foulée, signe pour 10 concerts en Allemagne, dont un récital à Berlin. Devenu une petite célébrité, Vladimir enregistre même sur un piano Velte Mignon, Danse excentrique et les préludes de Rachmaninov. Ces cartons perforés sont donc le premier témoignage sonore du jeune Vladimir. En mars de cette même année 26, il doit donner un récital à Paris. Un Paris...
Bonsoir. Vous savez que chez nous, même à l'improviste, vous êtes toujours le bienvenu.
Bonsoir. Non, je passais par là par hasard et... Chaque fois que je vous vois, c'est un nouveau plaisir.
Incroyablement proustien. Certes, Marcel est mort il y a 3 ans. Mais ici, comme avant, pour lancer un jeune musicien, il y a un lieu essentiel... Les salons. Merovitch s'est lié avec Madame Dubost, qui accepte de donner un concert privé chez elle en l'honneur de Vladimir. Avenue d'Iéna, elle reçoit le mercredi après-midi jusqu'à 200 personnes chez elle. Des musiciens comme des peintres, ses habitués sont Vlaminck, Braque et Picasso. Des années après, nous retrouverons leurs œuvres accrochées au mur chez Vladimir à New York. Cette Madame Dubost a un fils, Jean-Pierre, et il est le compagnon d'Arletty. Et oui, l'histoire est pleine de drôleries. Ainsi, la chanteuse de revue et actrice va assister à ce concert et l'évoquera souvent. Ce soir-là, Vladimir joue Chopin, Liszt, Poulenc. Après le concert, tout le monde se l'arrache.
Il n'y avait-il pas moyen moyen que je donne une soirée pour faire entendre votre ami.
Vous voulez dire mon protégé?
Mes compliments à votre protégé.
Il a aussi interprété de Ravel, Oiseau triste et Jeu d'eau, dont nous n'avons malheureusement aucune trace d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, à la fin de sa prestation, un petit homme s'approche. « Bravo, vous jouez très bien, mais nous, nous jouons ça de façon plus impressionniste ici. Vous, vous le jouez comme du Liszt, mais je crois que c'est vous qui avez raison. Ravi de vous connaître, Maurice Ravel, ajoute-t-il en lui serrant la main. Peut-être pouvons-nous entendre ce que veut dire Ravel dans Jeu d'eau sous les doigts de Cortot. Le concert de Vladimir à Paris a lieu le 12 avril 1926. Mérovitch a pensé qu'il valait mieux commencer par des petites salles. Il a donc prudemment sélectionné le conservatoire pour les deux concerts où Vladimir joue Bach, Liszt, Chopin et Ravel, puis la salle Gaveau. À chaque fois, il varie les programmes. Et ça marche. Ainsi, à Gaveau, il fait sold out. Voilà les critiques. Henri Ier, le plus prescripteur de tous, il arrive parfois qu'un artiste semble être un génie incarné. Un Liszt, un Rubinstein, un Paderewski, un Kreisler, un Pablo Casals, un Cortot. Vladimir Horowitz appartient à cette catégorie d'artistes rois. Émile Villermoz. Perfection et légèreté de son style au-delà de tout ce que l'on peut rêver. Du coup, trois nouvelles dates sont annoncées. Deux à Pleyel, il a sans doute joué le concerto de Liszt, et un récital à l'Opéra de Paris. C'est à cette occasion qu'est recueillie une archive extraordinaire, et je pèse mes mots. Étrange d'en parler à la radio, mais figurez-vous qu'un cinéaste a eu l'idée de filmer, évidemment sans son en 1926, le pianiste. Le cinéaste était si subjugué par la vitesse d'exécution qu'il montre en gros plan les mains de l'artiste dans les études de Chopin, une fois en vitesse normale, puis au ralenti. Allez voir sur notre site.
Thank you.
Emmanuel Franc, sous les doigts d'Horowitz, France Musique.
Et voilà maintenant notre Vladimir lancé dans le grand monde. Il est invité dans tous les salons. Chez Polignac, où il rencontre Stravinsky, Poulenc, Honegger, un peu plus tard Prokofiev, Rubinstein et Cortot. En fait, Vladimir est plus heureux à Paris qu'à Berlin. Tout d'abord, il parle français depuis l'enfance. Ensuite, la ville est plus prestigieuse et beaucoup de Russes quittent l'Allemagne pour y vivre maintenant.
Merci, madame.
En 1926, il y a entre 70 et 80 000 Russes à Paris. Beaucoup vivent dans le 16e arrondissement, autour de la rue Boileau, ou près de l'église Saint-Alexandre-Nevski de la rue Daru. Boulogne-Billancourt, à proximité des usines Renault et Citroën, où vont travailler les ingénieurs russes, est surnommée Billancoursk. On ne compte plus les restaurants russes de Pigalle, les journaux et autres maisons d'édition. Mais à la différence de Berlin, où restait l'espoir d'un retour rapide en Russie, en France, cette perspective apparaît désormais improbable. Surtout après la reconnaissance de l'URSS par la France en 1925. Les artistes se considèrent désormais comme dépositaires des valeurs culturelles de l'identité russe. Vladimir se retrouve donc dans une communauté amoureuse de Paris, où le plus chic côtoie le plus trivial. Nabokov, même s'il n'arrive qu'en 1932, décrit son amour de Paris. Le métro en peste, comme entre les orteils, et on y est aussi serré. Mais j'aime bien le claquement des tourniquets métalliques, les graffitis sur les murs, merde, les brunes aux cheveux teints, les hommes qui sentent le vin et les noms sonores et figés des stations. Et à Paris, la mode est devenue russe. On fume des cigarettes russes, on se toque de princesses sur le déclin, on rêve encore des destins romantiques de Diaghilev et Nijinsky. Le trio Volodia, Natanchi et Grisha, Horowitz, Milstein et Piatigorsky, va au concert. Et Milstein se souvient d'un en particulier parce qu'il a été décisif dans leur vie.
There was a concert, Chrysler Grand Opera, Paris.
And he played. Nous sommes allés au concert de Chrysler, au Grand Opera de Paris. Il jouait trois concertos. Horowitz et moi étions dans une loge.
But we were so fascinated, hypnotized, that after
et nous étions si fascinés. Si hypnotisé qu'à la fin du concert, même après les applaudissements, nous étions encore comme ça. Un vieux monsieur s'est approché, le placeur, et il nous a dit « Messieurs, vous savez que le concert est terminé ?» Nous étions si ébahis que nous ne pouvions plus bouger.
Thank you.
Certes, au violon, il y avait Fritz Kreisler et au piano, Serge Rachmaninoff. Un jour, le trio reçoit une invitation à une fête de l'ambassadeur soviétique qui vivait comme un nabab à Paris. Celui-ci bavarde avec Milstein, Piatigorsky et Vladimir, qui vont bientôt être définitivement acculés à un choix. La date d'expiration de leur visa étant proche. Milstein se souvient très bien de ce qu'il leur a dit.
Don't go yet, you didn't play enough for the capitalists.
Ne soyez pas bêtes, vous n'avez pas encore assez joué pour les capitalistes. Son successeur, un soviétique, renvoyait de force les gens en Russie. C'était le régime de Staline. Et on a décidé de ne pas rentrer. Kreisler nous a peut-être aussi influencés.
Cet ambassadeur, finalement de bon conseil, sera bientôt rappelé et fusillé lors des procès staliniens. Le trio de musiciens doit se contenter de passeports Nansen, délivrés par la Société des Nations pour les réfugiés. Un temps même, parce que la paperasserie pour se déplacer en Europe est devenue cauchemardesque, Merovitch se débrouille pour que ses ouailles reçoivent des passeports haïtiens. Rester en Europe donc, et même à Paris, certes, mais dans la dèche. Ils décident tous les quatre, Merovitch, Milstein, Piatigorsky et Vladimir, de louer un modeste appartement avenue Kléber, loyer payé bien souvent en retard à une logeuse attendrie par les trois jeunes musiciens. Vladimir se souvient. Tous mes premiers succès suivaient le même schéma. Du prestige, tant et plus. Mais juste assez d'argent pour payer quelques dettes et couvrir les frais des salles, hôtels, déplacements et repas. Un impresario italien vient écouter Horowitz et l'engage à deux concerts à Rome. Formidable et catastrophique, car Vladimir n'a même pas l'argent du billet de train. C'est le barbier de Merovitch, ému par le récit larmoyant que lui fait son client, qui le lui prête. À Rome, une fois encore, Vladimir déchaîne un immense enthousiasme, mais il gagne juste de quoi payer son billet de retour. Il travaille à de nouveaux programmes, alors que Milstein s'attaque à la transcription du nocturne en ut mineur de Chopin, que Vladimir ne joue pas trop dur au piano, plus doux au violon.
Thank you.
Et c'est ainsi qu'à l'initiative de Milstein, Vladimir reprend une de ses transcriptions commencées en Russie, la chanson bohémienne de Carmen. Cette transcription va devenir son best absolu, le bis le plus réclamé à tous ses concerts. Il en a fait 3 enregistrements. Cette année, Merovitch et Vladimir font connaissance avec l'impresario le plus important du continent américain, Arthur Hudson, qui s'occupe de solistes tels que Jascha Heifetz, Wanda Landowska, Béla Bartok, mais surtout de 2 orchestres, celui de Philadelphie et le New York Philharmonic. Il est un pionnier en matière de concert. Merovitch n'a de cesse de lui faire écouter son protégé. L'Américain venu signer avec un pianiste espagnol repartira finalement avec les contrats de Horowitz, Milstein et Piatigorsky. Aussitôt, le manager prévoit un concert avec le New York Philharmonic pour janvier 28. Mais Volodia est épuisé, déprimé. Le choix de ne plus revenir en Russie est maintenant définitif et cela le mine, plus qu'il ne le dira jamais. Car cela signifie qu'il ne reverra probablement jamais les siens. Mais avant de prendre le large vers New York, Vladimir doit honorer une tournée en Europe, Italie, Hongrie, Belgique, Pays-Bas. Il interprète le 3e concerto de Rachmaninov avec le Concertgebouw sous la direction de Mengelberg. Il faut dire qu'à force de jouer cette œuvre, pas si connue encore en Europe, il en est aussi devenu l'interprète fétiche sur le continent. Beaucoup de ses programmes, avec orchestre, se limitent aux œuvres de Liszt et Tchaïkovski. Il en est à détester le concerto de ce dernier tant il le joue souvent. Et puis il y a Londres. Vladimir va faire chou blanc au Albert Hall, salle bien trop grande pour un pianiste d'un renom encore modeste au Royaume. Un critique lui donne le titre de virtuose sans âme et sans avenir. Merovitch annule le dernier concert et Vladimir, désormais habitué aux louanges, pique une énorme colère. Enfin, à nouveau l'Allemagne, avec moins de succès qu'en 1925. Il se prend une nouvelle volée de bois vert. Un critique l'accuse de frivolité déplacée avec ses bis fanfarons. Quelqu'un qui est capable de donner à la sonate en si mineur de Liszt une telle grandeur littéralement démoniaque, et de mettre tant d'âme et de poésie dans Schubert ne devrait pas se laisser entraîner à tant de virtuosité, pour ne pas dire à des interprétations franchement égocentriques.
Ein Rätsel hat der Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen,
en revanche, il semble que Volodya ait profité de ce voyage à Berlin pour se dessaler un peu. Mérovitch, son vénérable chaperon, n'est pas du voyage cette fois. Alors, comme un gosse en goguette, Volodya va de boîte à drague, où la prostitution se pratique au grand jour, en cabaret outre bal de travesti, où il peut danser avec les garçons maquillés. Quelques mois plus tard, il décrira les bordels berlinois à la presse française, non sans candeur, et cela fera scandale. Quoi qu'il en soit, notre jeune Volodya ne repart pas tout seul de Berlin. Il a maintenant, comment dire, un valet de chambre, un compagnon de voyage, en tout cas un grand blond aux épaules carrées qui ne le quittera pas pendant 6 ans. Et nous sommes arrivés au 24 décembre 1927. Vladimir et Mérovitch embarquent pour un voyage de 12 jours sur un paquebot qui a pour nom le Hambourg. Un nom de bon augure, pense le pianiste, en référence à son premier succès. Quelles seront les aventures de Vladimir Horowitz à New York? Eh bien, cela, ce sera pour le prochain épisode de notre saga. Avant de nous quitter, restons avec lui en prenant le temps de l'écouter. Lors de cette 3e émission, nous avons beaucoup évoqué la sonate de Liszt. Nous en avons entendu un extrait dans une version très ancienne. Je vous propose maintenant de l'écouter plus longuement dans une version tardive et géniale à Carnegie Hall en 1986. Thank you. C'était un extrait de la sonate de Liszt, interprété par Vladimir Horowitz, enregistré à Carnegie Hall en 1986. Sous les doigts d'Horowitz, c'est fini pour cette semaine. Suite au prochain épisode, samedi prochain à 11h. D'ici là, passez une bonne semaine et écoutez beaucoup d'Horowitz. Vous avez toutes les références musicales sur le site francemusique.fr. C'était une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amadou. Prise de son, Emmanuel Arminghe. À samedi.